Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Les enfants du ghetto, c'est le titre du roman d'Israël Zangwill, paru à Londres en 1892 et qui a été un best-seller vendu à l'époque à 100 000 exemplaires. Mais si ce livre nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'il reparaît intégralement aux éditions des Belles Lettres dans une formidable traduction qui permet de profiter pleinement de la langue et de l'écriture riche et foisonnante de l'auteur. Ce roman, qui est sous-titré « Études d'un peuple singulier », décrit la vie dans le misérable ghetto juif de Whitechapel, à Londres, à la fin du XIXe siècle. Il décrit la survie de familles fraîchement immigrées venues d'Europe de l'Est qui tentent de survivre tout en recréant ou en préservant le quotidien qu'ils ont quitté et le cocon de l'orthodoxie religieuse. Il décrit aussi les enfants de ces émigrés qui veulent laisser le shtetl derrière eux, qui oublient le yiddish et aspirent à une certaine modernité. Il raconte encore ceux qui veulent réinventer la culture et la tradition juive pour la maintenir tout en épousant la modernité et la vie londonienne. Avec nous pour évoquer ce livre, ce travail colossal de sa traduction et cet auteur oublié, Marie Brunette Spire, qui a donc traduit Les enfants du ghetto. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir voulu retraduire, ressortir ce livre qui était oublié ?
Oublié, certes, de nos générations d'après-guerre, mais jusqu'en 1940, tout ce qui était à la fois juif et français, et souvent seulement français, connaissait Zangwill pour Les enfants du ghetto, Le roi des schnorrers, les comédies du ghetto, les tragédies du ghetto, et j'en passe d'autres choses, du ghetto dont Zangwill entendait plutôt peuple juif que ghetto localisé, mais ça on y reviendra je pense. Tout le monde était parfaitement, n'est pas le terme. Tout le monde, vraiment tout le monde dans le monde qui lisait, connaissait Zangwill avant la guerre. Et puis, il est tombé dans un oubli total. Il est vrai qu'il était connu dans une traduction qui était édulcorée par sa longueur, parce que Les enfants du ghetto, qui en anglais est un très gros livre de plus de 500 pages écrit en tout petit caractère, était paru en deux livres. Le premier qui s'appelait Les enfants du ghetto, qui représentait seulement la première partie du livre et la moitié, et encore il y manquait des chapitres. Et la deuxième partie était traduite dans un autre ouvrage qui est paru quelques années plus tard, sous un titre qui, alors pour le coup, était carrément, je trouve, une infraction à ce qui est du bon ton en traduction, c'est-à-dire que les petits-enfants du ghetto, c'est-à-dire les enfants de ceux des enfants du ghetto, étaient traduits par les affranchis du ghetto, ce qui est déjà une position idéologique ou en tout cas un certain glissement sémantique. Alors, pour toutes ces raisons, parce que c'est aussi un livre qui, bon, dans sa traduction ancienne, édulcorée, datée, il me semble que, d'abord, c'est un classique du monde juif, Zangwill, et ensuite, il me semble répondre à des problématiques de notre époque qui touchent à toutes les immigrations, pas seulement les immigrations juives, mais toutes les immigrations, les gens se posent des problèmes sur d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on était autrefois, quel était le monde d'origine et où est-ce qu'on est en train d'aller et qu'est-ce qu'on fait de notre bagage culturel. Et quand je dis culturel, je veux dire aussi la cuisine, les mœurs, toutes les coutumes. Et donc, il était temps de rafraîchir et de remettre le nom de Zangwill, me semble-t-il, dans le public actuel.
Alors, peut-être justement, on peut commencer cette émission en évoquant le personnage d'Israël Zangwill, donc, qui est lui-même issu de ce ghetto qu'il décrit, d'une famille russo-polonaise, avec un père très pieux. Vous pouvez peut-être nous décrire un peu le parcours de cet auteur, jusqu'à ce qu'il devienne écrivain.
Israël Zangwill a été un personnage extrêmement complexe, double, contradictoire, paradoxal, curieux. Il est né de parents de première immigration. Il est né à Londres. Il a vécu dans ce qu'il appelle le ghetto, c'est-à-dire le quartier juif, disons pour les anciens chez nous, le Plätzl de Londres, c'est-à-dire un quartier qui était comme tous les juifs, comme toutes les immigrations, se retrouvent et recréent un lieu à la fois pittoresque et d'origine, le Whitechapel décrit par, enfin, le quartier de Whitechapel, qui est tout près des docks, et le quartier, un quartier traditionnel d'immigration à Londres. C'est un quartier où on retrouve tous les éléments d'un shtetl. Et Zangwill, qui a donc vécu en yiddish, qui est né, qui y a vécu, était aussi quelqu'un qui voulait devenir un grand écrivain anglais, si bien qu'il a à la fois utilisé son folklore personnel et en même temps fréquenté tout ce qui était les jeunes écrivains un peu en rupture de banc à Londres à l'époque, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé le club des nouveaux humoristes, Conan Doyle, Mark Twain,
Jérôme
K. Jérôme. Et donc, il s'est retrouvé dans deux mondes. Mais ce livre, qui est son premier livre, il était très jeune, il avait 28 ans quand le livre est sorti. Il ne faut pas oublier que c'est 1892, c'est très tard dans le 19e siècle, mais c'est quand même très tôt. Et il a utilisé le pittoresque qu'il connaissait, dont il était issu lui-même, pour en faire aussi un livre historique, un livre sociologique, un livre d'images, aussi un livre satirique et un livre très critique par certains côtés.
Alors, ce qu'on peut dire aussi, Marie Brunet Spier, c'est que dans son parcours à lui, on retrouve beaucoup d'éléments qui sont dans le livre « Les enfants du ghetto », notamment, par exemple, le fait qu'il ait été dans une école qui était prise en charge par des philanthropes juifs et qui aidait à la formation des jeunes juifs.
Tout à fait. C'est son parcours. Il y a énormément de choses qui sont autobiographiques. On a dit, des personnages de son époque qui ont écrit sur lui, on dit qu'il y avait énormément de personnages à clé. C'est-à-dire qu'il retrouvait chez les contemporains des personnages qui ont nourri son imaginaire. Mais c'est évident, on pourrait dire la même chose de Balzac. Et il y a un élément de comédie humaine dans...
C'est très proche, oui.
Dans Les enfants du ghetto.
Il y a des archétypes qu'on retrouve, effectivement, tout au long du récit.
Alors, ce qui est très particulier dans Les enfants du ghetto, contrairement à d'autres nouvelles, car c'est le seul roman en tant que tel... Si on exclut évidemment Le roi des Schnorrer, qui est un court roman ou une nouvelle extrêmement longue. C'est un roman qui se passe entièrement en monde juif, ce qui, à l'époque, était aussi extrêmement, extrêmement nouveau. C'est pour ça qu'on peut en parler sous l'angle comédie humaine, parce qu'il y a, tous les niveaux de société. Il y a les riches et les pauvres, il y a les petits et les grands, il y a les Ashkénazes et quelques Sfarades, et puis il y a toute la comédie humaine que se jouent les gens quand ils veulent passer de tout petit dans la société à la grande bourgeoisie. Et on voit tous ces glissements, ce qui est d'ailleurs l'objet... Je ne sais pas si j'empiète sur ce que vous vouliez dire, mais qui est l'objet de cette étude... Première partie, les enfants du ghetto, c'est-à-dire l'immigration. Et puis les petits-enfants, c'est ceux qui y sont nés et qui veulent, eux, se faire un chemin dans la société anglaise et devenir passer dans les beaux quartiers, parler un bon anglais, éviter de rencontrer trop de juifs, de faire trop juif. Et là, ils sont évidemment en proie à une satire absolument terrible de la part de Zangwill, qui se moque d'eux, parce que jusqu'où est-ce qu'on peut tricher avec son passé ? Et il me semble que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, le livre est tellement important parce que il essaye de montrer les conditions dans lesquelles une immigration négocie son présent, son passé, son futur. Il me semble que ce qu'il montre, c'est les Juifs entre deux cultures, entre deux mondes, le monde d'où ils arrivent, le monde où ils sont obligés de s'adapter, deux cultures, et puis qu'est-ce qu'on négocie et comment est-ce qu'on va négocier son entrée dans un nouveau monde, qu'est-ce qu'on va oublier faire semblant d'oublier, qu'est-ce qu'on veut sauver pour rester soi-même. Et là, évidemment, il y a des tas de personnages qui sont en butte à une satire extrêmement violente, d'autant plus que Zangwill était quelqu'un qui était fasciné par le pittoresque et le drôle.
Oui, c'est un livre qui fait beaucoup rire aussi.
Oui, ça fait beaucoup rire, ça fait beaucoup pleurer aussi. C'était... Mais il le dit constamment, le rire est très proche des larmes. Et si je peux faire une parenthèse sur d'autres livres, il a écrit deux livres qui se font pendant. Tragédie du ghetto, où il y en a beaucoup qui sont drôles, et Comédie du ghetto, où il y en a qui sont sinistrement tragiques. Les deux s'emboîtent, et c'est ça la condition juive, et c'est ça ce qui fascinait aussi Zangwill. C'est un personnage très complexe.
Alors il faut peut-être dire, et ça nous aide aussi à comprendre ce roman, que ce livre au départ est une commande d'une société américaine qui veut revivifier la culture et la littérature juive, proposer des romans qui ne soient ni trop critiques ni trop flatteurs par rapport à la communauté juive. Et on se rend bien compte, effectivement, quand on lit ce livre, que sont en germe toutes les questions autour du sionisme, mais aussi autour de ce qu'on fait de cet héritage religieux. Est-ce qu'on va vers l'orthodoxie? Est-ce qu'on essaie de s'en libérer, mais en conservant quand même c'est quelque chose. Il y a voilà, beaucoup d'éléments dans ce livre qui soulignent les questions du temps, alors du temps juif de l'époque, mais du temps anglais, du temps européen, c'est-à-dire cette crise morale, cette crise des idées, ce développement du scientisme, du progrès, de la modernité à l'aube du XXe siècle.
C'est très exactement ce que vous avez décrit, est parfaitement juste. Et c'est comment est-ce qu'on s'insère dans ce monde où on n'arrive pas, tout habillé d'une culture, on n'arrive pas tout nu, et comment est-ce qu'on va s'insérer, mais aussi où est-ce qu'on devient caricatural quand on essaye de se faire passer pour l'autre. Et ce qu'il critique énormément, c'est... Vous savez, vous connaissez la blague juive où on dit il y a deux juifs et il y a trois organisations ou il y a trois présidents. Mais c'est à peu près ça. Les juifs qui sont décrits là sont en pleine fragmentation. Les groupes, les chevrot, c'est-à-dire les petites communautés juives qui se recomposent par affinité, glissent vers une fragmentation. Et il y aura, au bout d'un certain nombre d'années, une fédération des petites synagogues. Mais le mot « petite » ne leur plaît pas du tout. « Minor synagogues ». Alors, il y a une lutte pour essayer de faire effacer ce mot « minor » parce que c'est dévalorisant. Mais en fait, ils sont aussi en butte, tous ces personnages, à la critique de Zangwill. C'est quoi le judaïsme? Et alors, évidemment... Il y a une critique aussi très violente, très virulente, très sarcastique de la religion qui est prise comme, qui est elle-même caricaturée, qui est prise dans le sens où on n'observe plus que l'esprit, la lettre, et qu'on n'observe plus l'esprit. Alors cette phrase est terrible. L'indifférence et l'hypocrisie combinées maintiennent l'orthodoxie en vie et tuent le judaïsme. Et il y a beaucoup de moments comme ça où, effectivement, il passe en revue tout ce qui est les options juives à l'intérieur d'un judaïsme vécu. Quelles sont les options pour, à cette époque, 1890, on est en train de recevoir en Europe de l'Ouest toute la juiverie d'Europe orientale qui fuit les pogroms et la misère. Tous ces gens arrivent avec leur culture vécue, parlant le yiddish, là, pour le coup. Et alors, vers quoi on va se... quelles sont les options juives? Alors, il y a le sionisme. Il y a un personnage qui a un discours sioniste qui est de toute beauté, qui, dans une flamme, mais... Ça nous paraît évident maintenant, en 2012, mais en 1892, c'est donc écrit en 1891 ou 10, les gens qui sont décrits dans ce livre, c'est des gens qui sont d'avant 1890. Herzl n'existe pas, si je puis dire. Der Judenstaat paraît en 1896. Le sionisme, c'est du proto-sionisme. Et il y a là des petites organisations qu'il y a eu dans tous les, pays, les amants de Sion. En France, ça a existé, ça s'appelle là les fleurs de Sion, mais bon, il y a les sionistes, il y a les orthodoxes intégristes, il y a des fractions de libéraux, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Donc les questions se posent et Zangwill les montre. Donc c'est un peu, si vous permettez que j'ajoute ça, parce que votre émission qui s'appelle Mémoire juive est tellement...
Vive. Mémoire vive.
Mémoire vive, mais mémoire juive. Mémoire vive, c'est encore plus beau. Ça me fait penser absolument, comme les enfants du ghetto, au livre de Roman Vichniak, qui a voulu, avant que les shtetl et les bourgades et le monde juif de Pologne et de Russie ne disparaissent, quand ça commençait à sentir le roussi dans l'avant-guerre, eh bien, on a aussi l'impression que Zangwill, il veut fixer. Il veut montrer ce que c'est. Il veut en montrer la beauté, et puis ce qu'on peut en faire aussi, qui n'est pas toujours, très beau. Et les parvenus grotesquifient l'idée de juif.
Oui, et on sent effectivement qu'il est tiraillé entre à la fois la question de la perte, de la dilution d'une certaine culture juive, de la langue yiddish, et à la fois qu'il est... Moi, j'ai toujours du plaisir à lire ça chez un auteur, qu'il est préoccupé par la question de la situation des femmes dans ce monde juif. Ces femmes qui sont sacrifiées, que ce soit Esther ou que ce soit Anna, il fait des portraits de femmes qui sont sacrifiées sur l'autel de la tradition. Et il fait des portraits qui sont très forts. Et c'est une réflexion sur ce que l'orthodoxie, poussée dans son extrême, peut faire à la femme.
Le judaïsme orthodoxe peut être absolument mortifère. Et là, il le montre... en particulier pour les femmes, puisqu'il y a un épisode qui est extrêmement comique, mais qui finit en tragédie, puisqu'il y a une jeune femme qui ne peut plus épouser celui qu'elle aime, puisqu'elle est divorcée, mais en fait elle est divorcée à la suite d'une plaisanterie, si je puis dire, mais ça, engageons les lecteurs à lire pour voir pourquoi. Et l'objet de sa flamme, comme on disait, est un Cohen. Et la tradition la plus pure et la plus dure, son père est rabbin, on ne peut pas, quand on est une femme divorcée, épouser un Cohen. Et donc le mariage sera impossible, la vie de cette jeune femme est gâchée pour toujours, alors que le personnage du rabbin
est très nuancé,
il est intransigeant dans l'application de sa foi, il est horriblement intransigeant, mais c'est un homme qui est un homme bon. Et on voit ça aussi dans les personnages, je ne sais pas si ça vous a été sensible, les personnages ne sont pas d'une seule pièce, ils peuvent être ridicules et bons, il n'y en a pas un seul qui est méchant tout méchant et un tout bon tout bon. Les personnages sont nuancés,
ils se posent des questions.
Et ils posent des questions.
Il y a aussi un autre aspect qu'il faut souligner, Marie Brunet Spier, c'est la question, vous l'avez évoqué, de l'arrivisme social de certains et de la honte que certains développent de leurs origines juives, notamment ce personnage de Lévi qui fait semblant de ne pas reconnaître son père alors qu'il le croise dans la rue pour briller auprès d'une jeune fille.
Ah, c'est absolument épouvantable. J'avais quelques lignes que je voulais peut-être vous lire d'une femme qui veut passer pour une grande bourgeoise, qui y arrivera d'ailleurs en poussant à son mari à se présenter au Parlement, et il deviendra élu. Elle dit « Pour moi, la Noël à Londres, c'est ce qu'il y a de mieux », dit la maîtresse de maison sans y réfléchir. Vous permettez que je lise ?
Bien sûr.
« Je ne sais pas, je préfère Brighton », dit son mari. « Oui, je crois que Brighton est plus agréable », dit M. Montagu Samuels. « Mais tant de juifs y vont », observa Percy Saville. « Oui, c'est bien ça le problème », dit Mrs. Henry Goldsmith. « Figurez-vous qu'il y a quelques années, j'avais découvert un ravissant village dans le Devonshire. Nous y avons passé l'été. Quand j'y suis revenue l'année suivante, pas moins de 2 familles juives s'y étaient temporairement installées. Vous pensez bien que je n'y ai jamais remis les pieds. » Et le personnage qui lui parle ajoute « Oui, c'est surprenant comme les Juifs flairent tous les beaux endroits. » Et bien sûr, on ne remet pas les pieds là où il y a des Juifs. Ça, c'est la satire intégrale du Juif qui sort du ghetto et qui veut passer dans la société anglaise et qui veut monter socialement. C'est ce qu'on appelle les parvenus.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est très frappant quand on lit le livre, c'est la sensation de se promener dans un monde disparu, pourtant parfaitement vivant, parfaitement restitué dans ce roman. Dans ses moindres détails, on retrouve des gestes, des métiers, des cuisines, des préparatifs, des sociabilités, des gestes. Enfin, voilà, on est vraiment dans un souci du détail, presque un souci ethnologique.
Oui, mais c'est pour ça que ça me fait penser à Roman Vichniac, parce que vraiment, on a l'impression d'un album de photos d'un monde disparu. Et c'est bien le titre du livre de Vichniac, d'un monde disparu. C'est la restitution du monde qu'il a vécu, qu'il a connu et dans lequel il a vécu quand il était enfant, et qui nous rend cette image disparue à telle enseigne qu'on a très peu de témoignages vivants par des gens qui ont vécu à Whitechapel, et les historiens s'inspirent très souvent ou citent très souvent des passages des enfants du ghetto comme étant des témoignages vécus. Et ce que c'est d'ailleurs, puisqu'il s'est beaucoup inspiré de son expérience personnelle.
Alors peut-être pour finir, Marie Brunet-Spear, vous pourriez nous dire un peu comment vous avez travaillé en tant que traductrice sur ce roman, parce que quand on vous lit, bon, il y a les traits d'humour, il y a la langue yiddish, et puis j'imagine le passage d'une langue anglaise matinée de yiddish que vous essayez de traduire en français dans un français matinée de yiddish, il y a un travail de traduction d'orfèvre.
C'est très difficile, d'autant plus que Zangwill, c'est...
il joue avec la langue.
Il joue avec la langue. Mais il ne faut pas oublier que Zangwill parle anglais à des gens qui sont nourris de Bible. Les Anglais sont nourris de Bible. Lui, il est nourri de la Bible juive. Mais extrêmement souvent, quand il parle ou quand il fait des descriptions où ses personnages parlent, ce sont des morceaux de psaumes, mais sans guillemets. Donc il faut les identifier pour arriver à savoir à quel point cette langue est nourrie des textes. Ça, c'est une chose. Et puis, comme Zangwill aime beaucoup s'amuser et qu'on ne passe pas à côté d'un bon ou d'un mauvais jeu de mots, les personnages qui parlent l'anglais avec un accent fort, eh bien, quand il les restitue de manière phonétique en anglais avec un accent allemand ou yiddish, il faut s'amuser à le faire en français. Mais pas trop pour que le lecteur puisse quand même suivre le rythme de la phrase. Donc, ça, c'est très amusant. C'est pas facile. Et puis, souvent aussi, il veut montrer le passage des personnages des premiers, les vrais enfants du ghetto, ceux qui sont arrivés de Pologne, etc., qui parlent entre eux soit le yiddish, soit l'allemand. Ils passent du yiddish à l'allemand et de l'allemand à l'anglais. Il veut le montrer en anglais. Mais c'est très difficile de passer du yiddish à l'allemand en français. C'est un peu... Et puis pour les jeux de mots, alors là, c'est quelquefois... Il adore les mauvais jeux de mots, comme beaucoup de juifs adorent les mauvais jeux de mots et les bons. Et il y a une pléthore de jeux de mots. Par exemple, je peux vous en dire un que je trouve assez intraduisible. Peut-être qu'un lecteur viendra et me dira que c'est traduisible. Les juifs d'origine ashkénaze adorent le poisson frit.
Il y a beaucoup de passages sur le poisson frit dans ce livre, sur la préparation du shabbat.
Beaucoup sur la magie de la magie culinaire du monde de la cuisine yiddish, si je puis dire, ce qui ne veut rien dire. Donc, on frit énormément de poissons. Frire, ça se dit fry. Et quand est-ce qu'on frit le poisson? La veille du shabbat, donc le vendredi. Mais en anglais, le vendredi, c'est Friday. Et donc, Friday est le plus juif des jours de la semaine. It's the most Jewish
C'est le jour de la friture.
C'est le jour de la friture. Mais comment est-ce que vous pouvez dire frire bon, voilà. Donc, on s'amuse beaucoup avec la langue et Zangwill adore ça.
Merci encore. Je rappelle, Marie Brunet-Spear, que vous avez traduit donc dans une formidable traduction ce roman d'Israël Zangwill, Les enfants du ghetto, donc qui vient de paraître aux auditions des Belles Lettres. Vous avez d'autres projets de traduction de livres de Zangwill ?
Eh bien, il y en a déjà qui sont parus. Les Rêveurs du ghetto, c'est déjà paru il y a quelques années. C'est pas du tout un roman, ce sont des histoires de grands juifs ou bien des histoires de fiction. Les Comédies du ghetto ont aussi été traduites, retraduites, et une partie des tragédies est encore à faire. Et Le Roi des Schnorrs, bien sûr, existe, dans plusieurs traductions d'ailleurs, mais c'est un livre qui est éternellement drôle, puisqu'il fait la... c'est le comique de l'Ashkénaz... L'horrible Ashkénaze et l'horrible Séfarade qui sont transformés en merveilleux personnages à la Albert Cohen. Le Roi des Schnorrers, c'est le Séfarade qui est grotesquifié dans sa splendeur et en même temps porté au nu du personnage bouffon.
C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet: www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.